Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, des dégâts humains et matériels des pluies dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Hier jeudi, un enfant est décédé après avoir été foudroyé dans la commune de Mangina. Des explications dans quelques instants. Le cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu alerte sur le phénomène enfants en rupture familiale à la base du regain d'insécurité dans la ville de Bukavu. Selon cette structure citoyenne, ces enfants communément appelés Maïbobo sèment terreur et désolation la nuit en ravissant tout ce qu'ils trouvent sur leurs victimes. Notre invité est le coordonnateur du programme de santé de la reproduction dans la province de Lomami. Le docteur Robert Nsaka Malangu nous parle de son livre intitulé « Qu'aucune femme ne meurt plus en donnant la vie ». Dans cet ouvrage, il propose des pistes et solutions pour réduire la mortalité maternelle lors des accouchements. Bonjour à tous. Au micro, grâce à Mzati Masanzi. Au Nord Kivu, 13 écoliers foudroyés dans la chefferie de Bachou et un enfant dans la commune de Mangina décédé, plusieurs maisons d'habitation endommagées. Tel est le bilan d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur le territoire de Beni ce jeudi. La société civile locale lance un appel d'urgence pour la réfection de ces habitations. Guylaine Kassassia pour les détails.
Au total, 13 écoles de l'école primaire Masulukwe de Kanyunga ont été foudroyées pendant cette pluie torrentielle. Selon Gérard Kassere Kangesera, directeur de l'école, les victimes, dont cette fille, tout en classe élémentaire, ont rapidement été transférées dans une structure sanitaire locale pour recevoir les soins appropriés. Ce matin, leur état de santé est rassurant, précise Gérard Kassere Kangesera, qui lance également un appel d'urgence pour la mise en place des paratonnerres dans cette école. Par ailleurs, dans la commune de Mangina, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Beni, une mère et son bébé de 3 ans ont également été foudroyés par la foudre. Selon la société civile locale, l'enfant est décédé sur place, tandis que sa mère poursuit les soins au centre de santé de référence de Mangina. En plus de ces drames humains, plus d'une dizaine de maisons ont perdu leur toiture. Les occupants ont passé la nuit dans des maisons d'accueil. La société civile de Mangina lance un appel pour obtenir une aide afin de réparer ses habitations. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Pendant ce temps, en Ituri, 15 cas de la rage sont enregistrés dans la ville de Bounia au cours de cette année 2024 et sur 305 cas de morsures des chiens et chats. La ville de Bounia dispose d'au moins 3600 chiens selon les statistiques de l'année 2023. Cependant, moins d'un tiers seulement ont été vaccinés contre la rage cette année, déplore les chefs de la division provinciale de la pêche et élevage en Ituri. Ingénieur Fiston Kabassé qui explique au micro de Sadiq Aboubakar.
On a essayé de vacciner au moins 915 chiens et cette année on a enregistré au moins 305 camps de morsures de chiens et de chats. Parmi les camps de morsures, on a identifié au moins 15 cas de rage. C'est pour cela que j'appelle la population et qu'ils amènent les chiens, même les chats, pour la vaccination. Et vous trouvez beaucoup de gens, ils veulent faire l'élevage des chiens comme police à la maison. Et nous encourageons ces systèmes, et sauf nous devons les appeler d'enregistrer leurs chiens par les services compétents. Et ces chiens-là, nous devons les protéger avec les vaccins. L'importance de vacciner les chiens ou les chats, c'est pour prévenir contre les épidémies, parce que l'homme est obligé de rester avec les animaux. Dès que vous êtes au service, vous trouvez les enfants, ils sont en train de jouer avec les chats, ils sont en train de jouer avec les chiens. C'est pour cela que nous devons protéger ces animaux contre les épidémies. Et dès qu'il y a les cas de morsure, si le chien n'est pas vacciné, c'est tout un danger que vous gardez à la maison.
L'ingénieur Fiston Kabassé qui appelle le gouvernement provincial et les organisations humanitaires à leur faciliter l'accès aux vaccins contre la rage. On reste à Ituri. Des milliers de personnes déplacées installées à Biakat dans la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa, sont dépourvues d'eau potable depuis 3 semaines. À la base, des sources et puits aménagés où ces vulnérables s'approvisionnaient ne produisent pas une quantité suffisante d'eau à la suite de la sécheresse. Ces déplacés sont obligés de parcourir des dizaines de kilomètres dans la forêt à la recherche de cette denrée rare, ce qui les expose aux exactions des ADF actifs dans la région. Des explications avec Martial Kizabiamungu.
Trouver de l'eau potable ce dernier jour à Biakato centre devient un casse-tête. Plusieurs sources d'eau aménagées par certaines ONG et particuliers ne produisent pas d'eau suffisante pour répondre à la demande de la population. Les plus touchés par cette pénurie d'eau potable sont des déplacés internes installés à Biakato. Ces derniers, pour s'approvisionner en eau potable, sont obligés d'effectuer de longs trajets dans la brousse avec tous les risques d'être victimes des exactions des ADEF. La coordination de la protection civile de l'Ituri redoute que cette situation occasionne de nouvelles pertes en vie humaine et impacte sur la scolarité des enfants. Son coordonnateur, Robert Djalonga, demande aux services spécialisés d'assurer la sécurité de la population dans cette entité et aux humanitaires d'intervenir pour sauver des vies humaines. Cette pénurie d'eau potable n'épargne pas d'autres habitants de Biakato qui sont de même exposés comme les déplacés à des maladies Hydrique, Bounia, Martial, Kiza, Biamongo, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Maniema pour parler de la lutte contre les maladies d'origine alimentaire. Les jeunes engagés pour la réalisation des objectifs de développement durable, GIROD, sensibilisent la communauté. Cette activité porte sur les bonnes pratiques d'hygiène afin de se préserver des maladies d'origine alimentaire. Hier, les jeunes de cette plateforme initiée par les PNUD étaient dans différents marchés de la ville de Kindu pour réaliser leur mission. Florence Kizalunga.
Partie du marché central de Kindu, ces jeunes munis des mégaphones et quelques affiches se rendent dans chaque pavillon. Ils expliquent à la population l'importance de connaître les bonnes pratiques d'hygiène. Objectif, c'est protéger contre différentes maladies. Ribin Sadiki est leur président.
Nous avons décidé de pouvoir sensibiliser dans le marché de Kindu, tout simplement parce que, étant donné que nous sommes des jeunes qui œuvrent pour le développement de nos communautés, nous avons trouvé que c'était important de pouvoir mener une campagne de sensibilisation dans le marché afin de pouvoir appeler à nos mamans, vendeurs, et même les acheteurs sur les bonnes pratiques d'hygiène. Parce que nous avons constaté que certainement, ils contribuent significativement au développement et à l'économie de la ville de Kindu. Mais à un certain moment, certaines pratiques hygiéniques qui leur manquent contribuent d'une manière ou d'une autre à certaines maladies d'origine alimentaire. Est-ce comme ça que nous avons trouvé que c'était totalement important de pouvoir les voir afin de les rappeler que non, il serait évident de pouvoir connaître certaines pratiques hygiéniques afin de nous préserver contre les maladies d'origine alimentaire.
Conscient du danger, les vendeurs qui souvent exposent à l'air libre les aliments remercie ces jeunes.
Nous disons vraiment merci pour cette sensibilisation. Quand on ne pouvait pas nos aliments, on vendait à l'air libre.
À part le marché central de Kindu, ces jeunes se sont aussi rendus au marché Elila avec le même objectif. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous l'avons dit dans les titres, à Bukavu, Sud Kivu, les enfants en rupture familiale, communément appelés Maïbobo, tracassent la population pendant les heures nocturnes. Dans un rapport publié par le cadre des concertations de la société civile, les passants se font ravir de l'argent, des téléphones, des sacs pour dames et tout autre bien que ces enfants retrouvent sur leurs victimes. À partir de 20h, heure locale, ces enfants prennent possession des rues les plus fréquentées par la population. À ces jours, 21 cas de victimes ont été monitorés dans les communes de la ville de Bukavu. À vous. Ces reggae d'insécurité orchestrés par les mineurs poussent le cadre des concertations de la société civile à solliciter de la police la mise en place des points chauds mixtes PNC-FRDC pour permettre à la population de se mouvoir librement la nuit pendant cette période de festivités de fin d'année. On écoute Hippocrate et Maroumé de cette structure au micro de Jean Kassami.
L'agressivité, les menaces, pourquoi pas même des vols s'accentuent dans les rues, dans la ville de Bukavu, même dans les chemins des avenues. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il faut que les commandements ville puissent prendre des mesures. Nous venons de monitorer au moins 21 cas de personnes qui ont été agressées par les enfants de la rue. Et dans les cas de blessés, nous retrouvons des acteurs de la société civile de Bagira, ce qui inquiète davantage. Voilà pourquoi nous demandons à la police de bien jouer son rôle, surtout dans ces contextes. Il serait important qu'on puisse installer les points chauds qui pourront servir de relais parce qu'à tout le temps qu'on sera en train d'agresser, ou bien il y a des alertes des cas de suspects, la population ou bien les victimes peuvent se référer en alertant les points chauds, les policiers qui est là, à qui nous recommandons qu'ils coaniment ensemble avec les FARDC pour mettre fin à la situation sécuritaire dans notre ville de Bukavu, surtout dans le contexte actuel des festivités.
Revenons au Nord Kivu. Une cinquantaine d'acteurs étatiques et membres de la société civile ont participé mercredi à un atelier sur la gestion des alertes sécuritaires et les réponses apportées à Kassindi Lubiria, une commune rurale du territoire de Beni. Organisée par l'inspection territoriale, cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet des affaires civiles de la MONUSCO visant à sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs locaux afin de mieux lutter contre l'insécurité dans leur communauté. Les détails avec Marc Marofimbo.
Cet atelier a réuni des représentants de la société civile, des comités locaux de protection ainsi que des agents étatiques accompagnés par les affaires civiles de la MONUSCO. Les participants venus de Mutuanga, Karuruma, Kiavinyonge, Rugeti, Kassindi Port, Lume et Boulongo, des entités du territoire de Beni confrontées à des menaces sécuritaires, ont été formées pour mieux collecter et transmettre les alertes sécuritaires. Martin Paluku Bonakawa, inspecteur territorial dans la région de Beni, Butembo et Lubero, souligne l'importance de cet atelier.
C'était une occasion qu'on se retrouve pour qu'on parle le même langage au sujet des alertes et des réponses. Je voudrais mener à atteindre les participants l'esprit de la redevabilité. Nous trouvons ici que certains d'entre nous ne sont même pas informés, ne connaissent même pas ce que c'est l'alerte, qu'est-ce que c'est la réponse. Donc ici, j'attends aux participants de faire le feedback à ceux-là qui sont venus les représenter ici. MONUSCO, c'est un partenaire qui a été invité par le gouvernement. S'il y a des questions, c'est au gouvernement de poser des questions. La MONUSCO n'est que notre partenaire. Comme ici dans l'atelier, ils nous ont seulement accompagnés.
Signalons que cette activité de deux jours se clôture ce jeudi avec des recommandations pour améliorer les services locaux et la signature d'actes d'engagement des participants, ont précisé les organisateurs. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix, les bourgoumestres, présidents des conseils communaux et commandants des commissariats urbains de la police de Kinshasa appelaient chacun dans son domaine à assumer pleinement ses responsabilités pour que Kinshasa retrouve son lustre d'antan. Cet appel, le gouverneur de la ville a lancé mercredi au cours d'une rencontre avec ses différents responsables. Daniel Bumba a relevé à cette occasion différents points à améliorer à la base. Il a à cette occasion remis à chaque commune une enveloppe de 20 000 dollars américains des frais de fonctionnement. C'est ce que nous dit Babel Mpongo Masimango.
La situation chaotique que nous connaissons actuellement dans la ville n'est pas une fatalité, mais un défi que nous pouvons relever ensemble. Daniel Bumba, qui le dit, a notamment fustigé le laxisme et l'immobilisme de ses collaborateurs communaux dans la lutte contre l'insalubrité, la pollution sonore, les marchés pirates et l'occupation anarchique des emprises publiques. Il les a appelés à se mobiliser à la base pour la réussite du programme Kinshasa Ezobonga, en organisant notamment du nettoyage de rues, d'entretien systématique des caniveaux. Le gouverneur a aussi déploré le non-déploiement jusqu'à ce jour des plans de développement local demandés à ces autorités communales depuis deux mois.
Vous conviendrez avec moi que Kinshasa n'est pas assaini. La responsabilité de nous tous, nous d'abord en tant que dirigeants, on sait que nous devons mettre en place, intégrer aussi la population, la décentralisation, bon développement à la base. Si au niveau local, nous ne sommes pas très alignés dans tout ce que nous sommes en train de faire, ce sera comme si nous construisions un château sur du sable.
Le bourgmestre promet de faire mieux. C'est le cas de celui de Massina qui affirme avoir déjà un plan d'action à mener dans sa commune. Joseph Chitou.
On a déjà un programme qu'on a été déjà d'exécuter. Cette situation ne vient que nous compléter à ce que nous sommes en train de faire déjà.
Beaucoup reste à faire pour assainir Kinshasa. Le chemin est ardu, mais avec la volonté et la responsabilité de tous, nous pouvons transformer Kinshasa en un exemple pour toute la nation, a insisté Daniel Bumba.
Merci à vous, Babel. Poursuite de notre série sur l'assainissement et la gestion des déchets. Honneur qui vous, la mairie de Goma s'implique activement dans les activités d'assainissement et gestion des immondices pour lutter contre l'insalubrité dans la ville. En collaboration avec ses partenaires privés, le service d'assainissement de la mairie coordonne des travaux réguliers de balayage, d'écurage des caniveaux et transformation des déchets. Le responsable du dit service reconnaît des efforts consentis jusqu'ici, mais il évoque parmi les défis majeurs l'insuffisance des décharges publiques, mais aussi les moyens financiers pour mener efficacement ce travail. Le point avec Sifa Magoro.
D'après Maître Georges Moutachi, coordonnateur du service d'assainissement de la ville de Goma, la mairie travaille avec plusieurs organisations locales du domaine réunies en plateforme. Il cite comme exemple l'entreprise A3 qui s'occupe du vidage des toilettes publiques en transformant cette matière en savon notamment. Il y a également l'entreprise Kunafazi qui organise les ramassages de bouteilles plastiques et autres immondices pour les recycler en pavés ou en engrais et bien d'autres. Comme défi majeur, gouverneur Grégoire Moutachi parle de l'accroissement de la ville de Goma avec la présence des milliers de déplacés de guerre. Les deux dépotoirs publics dont disposait la ville peu avant ne sont plus accessibles. C'est notamment au quartier Mugunga qui héberge actuellement des camps de déplacés, mais aussi la zone de Kilimanyoka qui est actuellement une zone opérationnelle et difficile d'accès, précise-t-il. Autre défi évoqué, l'insuffisance des engins appropriés et les moyens pour assainir efficacement la ville. Goma, Sifamagoro, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Mali, l'armée et ses supplétifs russes des Wagner ont fait une quinzaine de prisonniers lors d'une opération à la frontière mauritanienne le 10 décembre dernier. Des Mauritaniens ont été arrêtés sur le sol malien à Lagdaf, près de Fassala, avant d'être libérés. Ce nouvel incident dans une zone frontalière parfois disputée n'a pas tardé à être instrumentalisé. Dans un contexte déjà tendu entre les deux voisins, la désinformation attise davantage les tensions.
L'invité.
Pour qu'aucune femme ne meure plus en donnant la vie, c'est un ouvrage publié le week-end dernier à Cabinda, dans la province de Lomami. Un livre apprécié par les prestataires de santé et les étudiants de médecine. Son auteur, Dr. Robert Nsaka Malangu, est coordonnateur provincial du programme de santé de la reproduction. Dans son ouvrage, il évoque les causes, les statistiques ainsi que les pistes de solutions pour réduire la mortalité maternelle lors des accouchements. Dr. Robert Nsaka s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, docteur Rehoboth Saka Malangu. Pourquoi avoir publié un livre intitulé « Pour qu'aucune femme ne meure plus en donnant la vie à l'Omami » ?
Merci pour votre préoccupation. Nous avons publié cet ouvrage pour alerter l'opinion provinciale, nationale et internationale sur cette forme de tragédie qu'est le décès maternel. La vision nationale du programme de santé de la reproduction ne cesse de marteler en disant aucune femme ne doit perdre sa vie en donnant vie, surtout des causes évitables. Ici, j'ai voulu qu'on parle spécifiquement de cette catégorie de femmes qui décèdent, pas parce qu'elles sont seulement femmes, mais parce qu'elles ont voulu donner une autre vie. Alors, c'est principalement ça la raison.
Quelle corrélation établissez-vous entre l'agriculture, principale source des revenus des ménages à l'Omami, soit 91,3%, et les femmes qui meurent en donnant vie à l'Omami?
50% des femmes qui décèdent en donnant vie à l'Omami ont comme principale occupation l'agriculture. Et cette agriculture les amène à aller loin dans des colonies de champs ou dans des villages éloignés qui ne sont pas couverts par des services de santé maternelle. Elles sont exposées juste parce qu'elles exercent ça comme profession et aussi elles habitent des endroits inaccessibles aux services de soins.
Y a-t-il un lien entre l'éducation et les femmes qui meurent en donnant vie à l'Omami?
Les résultats de notre étude sur notre recherche de 5 ans, nous l'avons menée sur un total de 295 femmes décédées en donnant vie, dont nous avons reçu leur revue donc systématique. Alors, cette étude révèle que 33,9% des femmes qui meurent en donnant vie à l'Omami, soit environ une défunte sur trois, n'ont jamais fréquenté l'école. Elles ne savent ni lire ni écrire. Tandis que 25%, un dixième, n'ont fréquenté que l'école primaire. Sur les 295 femmes décédées en donnant vie là, on a pu trouver qu'une seule femme universitaire, mais parce que aussi, quand on a étudié, on perçoit beaucoup plus vite l'importance d'utiliser les services de santé et de prendre soin de sa vie. C'est que même actuellement, les efforts doivent être fournis en termes d'accessibilité des filles à l'éducation. C'est pourquoi dans notre livre, parmi les pistes de solution, par exemple, nous proposons que, bien sûr, l'enseignement primaire, la gratuité est assurée par le projet PERSA. Alors, nous proposons par exemple que même pour l'enseignement secondaire, on pouvait réduire même de moitié les frais de scolarité pour les filles
Docteur, votre ouvrage démontre que les hémorragies obstétricales tuent 60% des femmes, soit 2 femmes sur 3, meurent en donnant vie à l'omami. Parmi elles, 3 cas d'hémorragie obstétricale sur 4 sont des hémorragies du postpartum. Quelle solution préconisez-vous pour arrêter cela?
Ici, on a d'abord identifié un problème lié aux compétences des prestataires qui dirigent les accouchements. Je voulais épingler particulièrement le fait que aujourd'hui à l'Omami, il y a environ 600 matrons qui continuent à diriger les accouchements. Nous préconisons d'abord de se réaffecter à la sensibilisation des femmes visiblement enceintes à venir toucher ou utiliser les services de santé maternelle et infantile. Autre chose que nous préconisons, il y a une approche qui s'est avérée très concluante, c'est le mentorat clinique petite dose haute fréquence. Une approche où on ouvre au sein des maternités un centre d'apprentissage continu et des répétitions de ces compétences critiques qui sauvent les vies.
Docteur Robot Saka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Notre invité s'entretenait avec Esther Mdalafina. 15h20 à Kinshasa, c'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta et supervisé par Alain Rong Machines. Billy Landry Betou a assuré la mise en onde et grâce à Mzatima Sanzi à la présentation. Merci.